cours de philosophie critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 29 janvier 1993.
Nous continuons cette réflexion critique sur les principes propres de la philosophie. Et il faudrait compléter du reste cette recherche avec les axiomes. On le fera juste après. C'est intéressant. Parce qu'on ne l'a jamais fait, ça. Du moins, je ne crois pas dans le thomisme. Dans une perspective de philosophie réaliste. On reste au point de vue critique au livre du père de Tonquedec, qui est un très bon livre, que vous pouvez lire ceux qui veulent, mais qui n'est pas tout à fait dans le même style que nous faisons la critique maintenant. Et puis il y a Maritain, les degrés du savoir, qui demande d'être entièrement repris.
De
ce qu'on appelle habituellement les prédicaments. Et vous voyez, il y a un autre regard sur les prédicaments ici, que le regard des prédicaments uniquement au niveau descriptif ou au niveau logique. Là, je découvre le fondement métaphysique des prédicaments. Je découvre la substance qui n'est pas la quantité, qui n'est pas la qualité, et ainsi de suite. Donc, je découvre tout ce qui est second dans l'ordre de l'être. Je sépare ce qui est premier de ce qui est second. Ensuite, je regarde l'ordre qui existe entre ce qui est second et ce qui est premier. Et je dis, ce qui est premier est principe de ce qui est second. Ça, c'est l'ordre. Et non seulement il est principe, mais il est cause. Donc, vous voyez, là, il y a un nouveau, il y a un regard de réflexion qui est à la fois philosophique et critique. Et je crois qu'il faut dire qu'il est philosophique. Après l'induction qui me permet de saisir ce qu'il y a de premier dans l'ordre de la détermination, dans l'ordre de la forme. C'est pour ça que je dis que la substance est première selon la forme de ce qui est. Elle est première et cause. Donc, cet ordre qui existe entre la substance et la qualité. La substance joue le rôle de source. Elle est première et elle est cause selon la forme de ce qui est. C'est la même chose pour l'acte, ce que nous allons voir tout de suite. Alors, au plan critique, ce principe que je découvre, donc de l'ordre de la substance et de la qualité, puisque pratiquement la confusion se fait constamment entre substance et qualité. Si vous regardez la philosophie de Heidegger, qui veut être la redécouverte de l'être, Heidegger ne redécouvre pas l'ousia comme principe et comme source. Ah, il en parle de l'ousia. L'ousia, c'est la présence. Vous voyez, comme Heidegger est platonicien, pour Platon, qu'est-ce que c'est que la substance ? Hestia, la déesse qui demeure dans la maison. Et quand Heidegger dit que l'ousia, c'est la présence, c'est exactement ce que Platon dit sur Hestia. Et la tradition religieuse parle de la déesse qui demeure dans la maison. En nous, il y a une déesse qui demeure dans la maison. Même quand vous êtes occupé au marché, quand vous êtes occupé à la cuisine, quand vous êtes occupé à toutes les occupations, il y en a une qui demeure. C'est votre âme. Nous dirons ça. C'est notre âme. Parce que toutes les activités viennent de nous. Il y a quelqu'un qui demeure. Et qui donne l'intériorité. Il y a des gens que tout voile dehors. présente, vous voyez, la mondanité, l'aspect, c'est les relations. Il n'y a plus que des relations, il n'y a plus de substance. C'est très important de dire ça, vois-tu. Vous voyez, et la critique montre que ce principe d'intériorité, c'est l'ousia, c'est l'intériorité de l'être. Et c'est cette intériorité de l'être qui donne l'intelligibilité à tout le reste. La qualité n'est intelligible que grâce à l'ousia. Et parfaitement intelligible. Je peux regarder l'intelligibilité de la qualité en elle-même. Je sépare la qualité de sa source.
Immédiatement après Thomas d'Aquin, la
substance est devenue sujet. Et dans la scolastique dite thomiste, la substance est regardée sujet. Ça, j'ai fait l'enquête, là. Ça m'intéressait. Je me dis, pourquoi qu'on met substance sujet? Alors, évidemment, on comprend très bien, si je prends l'étymologie de substance, sub stare, ce qui se tient en dessous. Qu'est-ce qui se tient en dessous? C'est le sujet. Alors, on a gardé le mot, on a regardé l'étymologie, et on a oublié la signification profonde. Alors, pensez toute la différence entre sujet et principe, entre sujet et cause, pour comprendre la dégradation de la métaphysique dans la scolastique. Parce que là, vous le saisissez tout de suite. Et cette dégradation, vous la retrouvez chez Descartes. Parce qu'il dit substance pensante, substance quantitative. Ce n'est plus la substance, c'est la manière dont la substance existe. La substance pensante. La substance pensante, très bien, c'est pour l'homme. Mais c'est pas par rapport à l'être, c'est par rapport à la vie. Alors, on a dégradé la substance saisie au niveau de l'être, au niveau de la vie. Et puis, après, on n'a plus regardé que le sujet. Donc, il faut réhabiliter, c'est-à-dire il faut redécouvrir ce principe premier au niveau de l'être. La substance est principe selon la forme de tout ce qui est. Elle est même cause selon la forme de ce qui est. C'est-à-dire que c'est la substance qui donne l'existé aux qualités, à la quantité, à toutes les modalités secondes de l'être. Ce principe est évident comme tout principe. C'est-à-dire, si je saisis ce qui est premier dans l'ordre de l'être, est nécessairement principe et cause de toutes les caractères seconds de l'être. Deuxième principe. Alors, oui, restons là simplement. Deuxième principe, le point de vue de l'être en acte. Alors, ici, c'est plus complexe. L'être en acte qui se distingue de l'être en puissance. L'induction se termine à l'être en acte. Et immédiatement, je vois à partir de l'être en acte, l'être en puissance. Je réfléchis sur cette saisie de l'être en acte. Cette saisie, ce jugement, cette découverte de l'être en acte. Et je regarde la relation qui existe entre l'être en puissance et l'être en acte. Comment l'être en puissance est tout entier relatif à l'être en acte. La puissance n'est connaissable que par l'acte. Ça, n'oubliez jamais ça. Et appliquez ce principe d'une façon radicale. Vous voyez, un petit exemple, nota bene, à titre d'exemple. On veut comprendre le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien. On se met le doigt dans l'œil. Puisque l'Ancien Testament est en puissance le Nouveau. Et on tombe tous dans le panneau, vous savez. Si on ne fait pas grande attention, c'est là où la métaphysique rectifie jusqu'à l'exégèse. C'est rude, hein, parce que c'est pas commode. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'exégèse, la métaphysique, mais oui. Ça a quelque chose à voir avec mon intelligence. Est-ce que l'exégèse a quelque chose à voir avec mon intelligence? Si l'exégèse n'a rien à voir avec mon intelligence, alors très bien. tous les prophètes de l'Ancien Testament. S'il avait été métaphysicien, il aurait dit, c'est impossible de faire ça. Alors il a regardé toutes les prophéties de l'Ancien Testament, puis il est arrivé à cette conclusion. Non, le Christ tel que le présente l'Église actuellement, c'est pas le Christ annoncé par l'Ancien Testament. Et il aboutit au marxisme. Et tous les étudiants derrière lui, ça fait un grand, grand scandale. Parce que c'est pas la peine, c'est pas directement ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que le Christ, pour le croyant, c'est celui qui est l'acte de toutes les prophéties. Puisque toutes les prophéties s'achèvent dans le Christ. Donc c'est à la lumière du Christ que je lis toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et non pas l'inverse. Or, aux exégètes de l'Ancien Testament, il vous dira, ah non, pas du tout. On n'a pas le droit de faire ça, ça, c'est ce que faisaient les pères de l'Église. Ils n'étaient peut-être pas si bêtes. Et ils étaient croyants. Alors, on veut regarder l'Ancien Testament pour lui-même, mais on ne peut plus faire ça. En tant que croyant, on ne peut plus faire ça. Puisqu'on a la lumière dernière, le Christ. Et c'est à la lumière du Christ que je regarde. Donc, vous voyez,
c'est donc l'âme humaine qui donne la...
mesurable. Donc, c'est pas la connaissance philosophique du corps. C'est une connaissance ex parte matériae, du côté de la matière. C'est une connaissance matérielle qui me donne des dispositions, mais qui ne me fait pas donner l'intelligibilité parfaite. Ah, si c'est affolant. Si oui, c'est affolant. Et ça explique du reste des quantités de choses, vous voyez. Toutes les expériences qu'on fait, les expériences à propos des médicaments. Il y a de temps en temps ces choses qui nous rappellent, si la, signal d'alarme. On invente un nouveau médicament. On fait l'expérience sur les petits rats. Sur les petites souris. Et on voit que ça marche. On l'applique à l'homme et ça marche pas. On a fait ces expériences terribles. Certains médicaments, dont j'ai oublié le nom, mais qui faisaient que les personnes, les mères qui prenaient ça, quand elles attendaient leur enfant, l'enfant devenait difforme. Et c'est avec un bras en moins, c'est avec une jambe en moins. Parce qu'on a cru que l'expérimentation sur la souris permettait de l'appliquer à l'homme. Mais le corps humain est un corps d'une subtilité bien plus grande que celui des animaux. Et que la biologie ne nous le dit pas, connaissance générique. Mais si on comprend ça, on comprend que tout ce que dit la biologie, c'est très intéressant, ex parte matériae. Ça me donne des dispositions, mais ça ne me donne aucun principe propre. Le principe propre du vivant, c'est l'âme. Là, ça explique tout ce qu'on voit aujourd'hui comme conséquence. Là, il faut être farouche. Il faut comprendre que c'est en comprenant l'acte, donc en comprenant l'âme, que je peux comprendre le corps humain. Et les médecins, les vrais, sont bien obligés de reconnaître quand ils disent « Ah, c'est le moral qui soutient ». Ce malade, c'est le moral, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'âme. Je me souviens que tous ceux qui revenaient de captivité de l'Allemagne après la guerre, presque tous disaient ça. Si un animal avait subi ce qu'on a subi, il serait mort. La résistance du corps humain est infiniment plus grande que la résistance du corps animal. À cause de l'âme. Mais évidemment, quand le moral disparaît, c'est-à-dire quand l'âme n'a plus de finalité, est-ce que ça veut dire ça? Quand l'âme n'a plus de finalité, alors à ce moment-là, l'homme devient incapable de porter. Faites subir la sèse à un animal qu'on peut faire subir à un homme. Oui. Faites subir le carême monastique à un animal, il crevera. Tandis que l'homme le fait par amour pour le Christ, alors il peut subir des ascèses extraordinaires. Et c'est le principe. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Vous voyez, il faut que ces principes métaphysiques, on en voit l'application ultime et dernière. C'est très très important de saisir ça. Donc, second grand principe métaphysique, tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Et de voir l'application de ce principe au niveau des cinq modalités de l'acte, au niveau de l'être, de l'essai. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. L'essence est ordonnée à l'exister. La substance est ordonnée à l'exister. Et la substance distincte de l'acte, c'est l'essence. Au niveau vérité, au niveau amour, au niveau des activités vitales et au niveau physique, les cinq modèles. philosophique. Et alors, les applications sont énormes. Remarquons que dès que je saisis ce point de vue, tout ce qui est en acte, tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte, j'énonce le principe de finalité dans ce qu'il a de plus radical, dans ce qu'il a de plus fondamental. Et je vois que ce principe de finalité prend cinq modalités au niveau du devenir, au niveau de la vie, au niveau de l'esprit, au niveau de l'être. Au niveau de la vie, intelligence et volonté. Avec ces cinq modalités du principe de finalité, avec ces cinq modalités, je termine l'énonciation de tous les principes propres de la philosophie. Donc voyez, si vous regardez tout ce que nous avons vu sur les principes propres de la philosophie, nous avons énoncé tous les principes propres. Et nous avons donc précisé l'intelligibilité et les rapports au niveau du devenir et au niveau de l'être par le point de vue des causes. Le principe demeure ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligibilité et la cause ce qui est premier dans l'ordre de la réalité, dans l'ordre de l'exister. Exister impliquant le devenir, exister au-delà du devenir, c'est-à-dire au niveau de l'être. Alors, faites pour vous-même, dans la mesure où vous avez le temps, ce petit tableau. Ça aide énormément. Tu vois, la critique doit aider la philosophie. Elle n'invente rien. La critique n'est pas inventive. C'est pour ça que celui qui demeure tout le temps dans la critique, il fait du surplace. Alors quand on fait du surplace, c'est bien le militaire qui fait du surplace. Hein, c'est fatigant, la fin. Puis, on creuse, et puis, alors, on n'avance pas. C'est très, très curieux. La critique a un regard immobile. Du sphinx immobile, et on creuse. Alors on creuse tous ces principes propres de la philosophie. Je crois que nous devons maintenant comprendre que la dernière découverte, c'est la découverte du Dieu créateur. Et la découverte du Dieu créateur, on le contemple. Donc la dernière activité de l'intelligence, ce n'est pas la découverte des principes propres, des causes propres, c'est la contemplation. On ne contemple pas un principe. On contemple une réalité. On contemple une personne. Mais en critique, je vois qu'il n'y a pas de principe propre de la personne. Alors là, il y a un petit nota bene qui est très important à saisir. Parce qu'il y a une tentation permanente et elle existe aujourd'hui. Elle existe au niveau thomiste. Regardez les livres d'Hubert Weber qui essaie de montrer que dans saint Thomas, il y a un principe propre de la personne. Quand la métaphysique se termine à la personne, ce que nous voyons, hein, le « je suis », nous disons au plan métaphysique que c'est l'expérience la plus parfaite que j'ai de la réalité existante. Quand je dis « je suis », j'expérimente C'est mon être. C'est mon exister. Et cet exister, je vous le disais au dernier cours, il est mon bien. Et personne ne peut l'enlever. On peut m'enlever tous mes vêtements, mais mon exister, non. Oh, on peut me tuer. Mais même en me tuant, on n'enlève pas mon exister. Tellement il colle à ma peau. Mon exister. Oui, c'est très très joli parce que ça montre bien que mon exister, il colle à mon âme et pas à ma peau. C'est mon avoir qui colle à ma peau et pas à mon exister. Mon exister est lié à mon être, à mon âme, source de mon être. Et il rayonne à travers mon corps. Mais mon corps n'est pas mon exister. Mon corps est le rayonnement de mon exister. Et la personne implique le corps et l'âme. Il n'y a pas de principe propre de la personne humaine. La personne est une manière d'être. Une manière d'être d'un être spirituel qui a conscience qu'il existe et qu'il expérimente lui-même qu'il existe. Cela, je peux le comprendre. Il n'y a pas de principe propre de la personne humaine. Vous voyez, c'est un vieux reste Descartes de croire que c'est la substance pensante. Descartes voudrait qu'il y ait un principe propre de la personne. Et donc, tous ceux qui voudraient qu'il y ait un principe propre de la personne, c'est le vieux reste de Descartes qui est en eux. Il ne faut pas leur dire ça parce qu'ils bondissent quand on dit ça. Il faut les faire bondir de temps en temps pour qu'ils décollent un peu. Et qu'ils arrivent à comprendre qu'il n'y a pas de principe propre de la personne. La personne, c'est un tout. C'est un tout. C'est pour ça que la mort est au niveau de la personne, au niveau de l'individu. Et il y a quelque chose qui se sépare. Mais l'aspect substantiel de mon être demeure. Alors, je peux ici, au point de vue critique, montrer, puisqu'on est dans la recherche du principe propre, et comme certains disent qu'il y a un principe propre de la personne, la substance pensante. Mais ils font de l'intelligence une substance. Or, l'intelligence, comme telle, n'est pas substance spirituelle. Elle n'est pas la substance spirituelle. C'est mon âme qui est la substance spirituelle. Et l'intelligence est une puissance de mon âme. Mais mon intelligence n'est pas mon âme au plan substantiel. Mon intelligence en moi n'est pas ma substance. C'est mon âme qui est ma substance. Alors comment on arrive à cette confusion? Ça, je dois l'expliquer, hein, point de vue critique. Comment on arrive à cette confusion? J'ai des gens très bien, je vous dis. Père Weber, quand il fait ça, il en est persuadé que c'est l'intelligence même du Tommy se dire ça. Et que saint Thomas le dit. Je n'ai jamais vu, moi. J'ai au contraire vu dans saint Thomas toute créature comme telle, en elle, il y a une distinction entre sa substance et ses puissances. Si mon intelligence était substantielle, je serais Dieu. Si ma substance était mon intelligence, je serais Dieu. Parce que c'est propre de Dieu. Et c'est dans ce sens-là, vous voyez, que Sartre a raison de dire que si Descartes vivait notre temps, il serait athée. substance pensante, c'est mettre l'homme au niveau de Dieu. Donc là, il y a un très gros problème critique, extrêmement intéressant. Posez-le de cette manière. Il y a